Ce livre porte sur les transformations les plus récentes de la justice des mineurs françaises et il analyse notamment les processus par lesquels la contrainte d'enfermement et plus généralement la contrainte pénale sont récemment devenus, on pourrait même dire redevenus, l'un des pivots des politiques éducatives à l'égard des jeunes délinquants. Alors pour rendre compte de ces transformations, je décris notamment l'émergence d'un nouveau modèle d'éducation des jeunes délinquants que j'ai nommé, que j'ai qualifié d'éducation sous contrainte. Alors l'essor de ce modèle, l'émergence de ce modèle, s'est appuyé, on peut dire, sur une série de mutations fortement controversées qui sont allées de pair depuis le début des années 90 avec une hausse continue du nombre de jeunes et du nombre de mineurs en fait engagés dans des procédures pénales, dans un contexte où la question de la délinquance juvénile liée à celle des violences urbaines commençait à être constituée comme une priorité politique de ce que l'on nomme aujourd'hui assez communément la lutte contre l'insécurité. Alors, la première de ces mutations, en tout cas dont j'ai envie de parler, ça a été l'ouverture de nouveaux dispositifs d'encadrement à destination des jeunes considérés comme les plus difficiles. Alors ça a été l'ouverture en 1996 des premières unités à encadrement éducatif renforcé qui ont été rebaptisées deux ans plus tard centre éducatif renforcé. Ça a été ensuite l'ouverture des premiers centres éducatifs fermés dans le cadre de la très contestée loi Perben du 9 septembre 2002. Loi Perben qui a aussi acté l'ouverture de nouvelles prisons spécifiquement dédiées aux mineurs au sein desquelles sont censés cohabiter les prérogatives sécuritaires propres à tout établissement pénitentiaire et un objectif général de resocialisation qui est incarné par la présence renforcée d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. La seconde mutation que je souhaite mentionner concerne la déconnexion croissante entre une forme pénale du travail éducatif menée auprès des jeunes délinquants et une forme civile du travail éducatif menée auprès des jeunes dits « en danger », traités au nom de l'assistance éducative. Alors ce point, il est assez décisif en fait, parce qu'il faut comprendre qu'historiquement, la justice des mineurs et sa philosophie éducative reposent au contraire sur la continuité, voire l'indistinction revendiquée entre ces deux formes du travail éducatif, au nom de l'idée générale selon laquelle les jeunes délinquants seraient avant tout des jeunes victimes d'un environnement social, familial ou psychologique de danger. Alors cette autonomisation relative d'une forme pénale du travail éducatif, elle se manifeste en particulier par l'importance croissante qui est accordée dans la relation éducative elle-même à ce que les éducateurs nomment le travail sur l'acte et qui vise prioritairement la responsabilisation des jeunes vis-à-vis des actes de délinquance qu'ils ont commis. Et finalement, on pourrait dire que cette seconde mutation, elle vient redoubler l'opposition de plus en plus étanche, notamment dans les débats publics, entre les catégories liées au thème de l'enfance menacée, en danger, à protéger, d'un côté, et de l'autre, les catégories liées au thème de l'adolescence menaçante, à réprimer et dont il faudrait se protéger. Alors il faut dire ici l'ambivalence de ce modèle d'éducation sous contrainte. D'un côté, en effet, il s'appuie sur de nouveaux savoirs, que ce soit des savoirs juridiques, pédagogiques ou psychologiques, qui légitiment l'usage de la sanction pénale jusque l'usage de la peine d'incarcération comme un instrument de responsabilisation des jeunes. Et de l'autre, comme on le perçoit d'emblée en réalité, ce modèle réactif de vieilles recettes disciplinaires qui en appellent à la nécessité supposée d'un retour de l'autorité dans un contexte de crispation croissante autour d'une frange bien spécifique de la jeunesse, qui est sa frange la plus précarisée, le plus souvent racisée et finalement toujours plus stigmatisée. Alors le fil rouge de ce livre consiste à inscrire l'émergence de ce modèle dans le cours historique d'une administration, la protection judiciaire de la jeunesse, dont je montre que l'histoire est précisément traversée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par une méfiance, voire une défiance vis-à-vis de toute forme d'enfermement des jeunes. La création d'un corps d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse par un décret du 10 avril 1945 qui suivait de près la promulgation de la fameuse ordonnance dont on parle beaucoup aujourd'hui du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Donc la création de ce corps d'éducateurs procédait ainsi d'une volonté politique de rompre avec le passé pénitentiaire de la justice des mineurs. On comprend dans ce contexte à quel point l'émergence de ce modèle d'éducation sous contrainte constitue une mise à l'épreuve de l'identité historiquement constituée de la protection judiciaire de la jeunesse, qui vient par ricochet fragiliser sa profession d'éducateur, elle-même placée sous la contrainte d'une administration qui lui impose de rentrer dans le rang. Alors, pour approfondir l'examen de ces tensions historiques, le livre propose de plonger au cœur des pratiques éducatives quotidiennes au sein de trois principaux types de dispositifs de prise en charge, un centre éducatif en milieu ouvert, un centre éducatif fermé et deux prisons pour mineurs. Alors, ces plongées monographiques, elles permettent notamment d'observer la manière dont les éducateurs s'approprient assez pragmatiquement les outils de la contrainte, souvent d'ailleurs en déléguant à d'autres acteurs l'exercice de l'autorité auprès des jeunes. Alors, c'est notamment le cas quand des éducateurs en centre fermé en appellent aux magistrats pour réclamer plus ou moins explicitement l'incarcération d'un jeune dont ils estiment qu'il a dépassé des limites. C'est aussi le cas quand des éducateurs en prison s'appuient sur le dispositif disciplinaire de l'administration pénitentiaire pour recadrer et responsabiliser un jeune dont ils estiment qu'il a mis à mal leur autorité. Alors, ce que j'analyse dans ces situations de travail qui, évidemment, ne manquent pas de faire débat au sein des équipes éducatives, c'est la manière dont les éducateurs participent d'une extension hautement controversée de leur espace professionnel en y intégrant des éléments et des acteurs qui en étaient auparavant étrangers. Et finalement, comme l'illustre aussi la mise en concurrence croissante du syndicat historique de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est aussi son syndicat le plus militant, ces situations de travail témoignent, à mon sens, des reconfigurations d'un groupe professionnel dont l'identité est de moins en moins liée à la mémoire politique de sa mission fondatrice.